ce matin, je voudrais vous parler d'un homme qui m'a beaucoup impressionné par sa piété. Cet homme vivait en même temps que le prophète Ésaïe et s'appelait Ézéchias. Bien sûr, je ne crois pas que c'est un homme très connu. Je ne crois pas que le Nouveau Testament en parle, par exemple. Mais il était le 12e roi de Juda. Ce qui veut dire qu'en étant roi de Juda, il était descendant de David et ancêtre de Jésus. Je me suis intéressé à Ézéchias pour la première fois il y a presque 13 ans maintenant. Il y a beaucoup de références dans la Bible en ce qui concerne cet homme. Il y a même des références en dehors de la Bible dans les écrits d'Antiquité tels que les Assyriens. Voici le passage qui m'a frappé la première fois que je l'ai lu et qui m'a poussé à connaître mieux cette personne. C'est en 2 Rois, chapitre 18, les versets 5 et 6. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'en eut pas de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Pourquoi parle-t-il si favorable, Dieu parle-t-il si favorable d'Ézéchias? Il n'y a que deux rois qui ont reçu un jugement favorable. David, l'homme après lequel tous les autres rois sont jugés, et Josias, l'arrière-petit-fils d'Ézéchias, qui était lui aussi un restaurateur de la loi et du culte de Dieu. Peut-être la raison principale derrière cette évaluation positive, c'est le fait qu'Ézéchias, pas seulement a-t-il conformé sa vie à la volonté de Dieu, mais qu'il a conduit le peuple dans une restauration spirituelle. Cette restauration était unique parce qu'elle était la plus complète et la plus consciencieuse de l'époque des rois. La première fois que j'ai étudié Ézéchias, j'étais surpris d'apprendre que sa restauration était tellement complète qu'elle comprenait les tribus de Manassé, d'Éphraïm, de Zabulon et d'Azer dans le nord. Et quelle était la situation pour que cela soit unique? Bon, rappelez-vous qu'à la mort de Salomon, le fils de David, que le pays d'Israël avait été divisé en deux. Deux tribus sont restées au sud et sont appelées Juda. Et puis, il y a les 10 tribus qui se sont rebellées, qui ont formé ce qu'on appelle Israël du Nord, ou la Samarie. Vous trouverez plusieurs de ces noms. Mais des années plus tard, de quelques 200 ans plus tard, à cause du péché, des péchés du peuple, l'idolâtrie du peuple du Nord, ils avaient été amenés en captivité. Ils avaient été amenés en captivité 5-6 ans avant que Ézéchias devienne roi en Juda. Et donc, il ne restait dans le pays que quelques-uns de tout ce peuple. Et c'est à ces gens-là qu'Ézéchias a donné l'invitation pour participer dans cette restauration. Lisons deux passages qui parlent de cela. D'abord, 2 Chroniques, chapitre 30, le verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il avait en effet également écrit des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et pour le deuxième, c'est en 2 Rois, chapitre 18, les versets 3 et 4 cette fois. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achira, et mis en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Donc, il a invité les gens du nord aussi bien que ceux du sud pour participer à la Pâque. Mais en plus, il a détruit toute forme d'idolâtrie dans le pays. Il est allé même jusqu'à détruire un objet sacré dans l'histoire du peuple de Dieu, ce serpent de bronze que Moïse avait fait. Et vous trouverez l'histoire de ce serpent dans le livre de Nombres. Là, le peuple s'est plaigné contre Moïse, contre Dieu. Et pour le punir, Dieu avait envoyé des vipères dans le camp. Et beaucoup sont morts. Enfin, ils se sont rendus compte qu'ils avaient péché contre Dieu et ils ont demandé qu'il le sauve de ces vipères. Et Dieu a commandé à Moïse de faire un serpent en bronze comme les vipères, de mettre sur le poteau et que celui ou celle qu'il regardait serait sauvé. Il ne mourra pas. Jésus a pris l'exemple de cette histoire. Et en Jean chapitre 3, en parlant à Nicodème, il a dit que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, Ézéchias, il était tellement zélé pour faire la volonté de Dieu, il a même détruit ça. Parce que les gens, au fur et à mesure des siècles ont passé, ont commencé à adorer cette image d'un vipère, au lieu de se rappeler de ce que cela voulait dire, que Dieu leur avait donné le salut. Ézéchias régnait de 715 à 686 avant Jésus-Christ. La situation en Juda à cette époque était un état de soumission à l'empire assyrien à cause d'Akaz, le père d'Ézéchias, et à cause des péchés du peuple, bien sûr. Du point de vue religieux, le peuple avait été infidèle à Dieu en se donnant à l'idolâtrie, pas seulement à l'idolâtrie ou aux idoles du pays, des Cananiens, mais aussi aux idoles des Assyriens, ceux qui les ont vaincus. La situation de servitude était arrivée malgré les efforts du prophète Ésaïe. Ils avaient refusé ses conseils. Akaz ne l'écoutait pas. Or, sous le règne d'Ézéchias, Ésaïe avait plus de succès car le roi était du même avis que lui. Le roi l'écoutait. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. C'était son conseil. Akaz, son père, s'était soumis aux Assyriens afin d'avoir l'aide contre Israël du Nord et contre la Syrie qui voulait l'attaquer. Ézéchias refusait cette servitude et en mettant sa confiance en Dieu, il a repoussé le joug d'Assyrie. Il est à cause de sa proclamation de liberté qu'il a fortifié Jérusalem et la ville de Juda. Il est allé même jusqu'à changer les sources d'eau de la ville. Cette dernière préparation était une des plus importantes d'un point de vue historique et archéologique. Ce changement des courses d'eau comprenait le percement d'un tunnel à travers quelques centaines de mètres de roc et le détournement du cours d'eau de Guillon à travers ce tunnel. Ce tunnel, connu sous le nom de Siloué, est considéré comme un des grands exploits de l'Antiquité. Une inscription trouvée dans ce tunnel vers 1880 est très importante d'un point de vue archéologique pour vérifier l'histoire d'Ézéchias et ainsi la véracité de la Bible. Il est à cause de cette révolte d'Ézéchias et à cause de la restauration du culte de Dieu dans tout le pays que le roi assyrien Sanchérib a envahi la Palestine en 701 avant Jésus-Christ. Presque tout de suite, il a pris 46 villes en Juda. Et ainsi, il croyait qu'Ézéchias et Jérusalem seraient des proies faciles. Il a même envoyé un messager à Jérusalem pour demander la reddition de la ville avant de l'attaquer. Le messager parlait en termes moqueurs au sujet d'Ézéchias et en termes blasphématoires au sujet de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'Ézéchias a montré un plus grand courage que son père, une plus grande confiance en Dieu que son père Akaz. En lisant les plusieurs récits de la vie d'Ézéchias, nous trouvons que le prophète Ésaïe avait un accès facile à la cour royale. Il a exhorté la fidélité à Dieu et parce que Ézéchias était fidèle, il a pu communiquer cette promesse de la part de Dieu. C'est en Ésaïe chapitre 37, les versets 33 à 35. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier, et il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et puis, tout de suite, Ésaïe nous donne l'accomplissement de cette promesse. C'est dans les versets 36 à 38. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'était tous des cadavres. Alors, Sanchérib, le roi d'Assyrie, partit, s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Et puis le verset 38 dit qu'il a été même assassiné par deux de ses fils. Donc, Dieu a dit, puisque tu es fidèle, je protège la ville. Et puis Ésaïe dit que c'est accompli par un miracle. Comme je dis, c'est la piété d'Ézéchias qui m'a frappé le plus. À part les récits de deux rois, de Chroniques et Ésaïe, un autre témoin de sa piété, c'est le livre des Proverbes. Les proverbes 25 à 29 sont attribués aux hommes sous la conduite d'Ézéchias, c'est-à-dire au commandement d'Ézéchias, les scribes ont mis en écrit les proverbes oraux de Salomon. Qu'Ézéchias était un homme pieux est surprenant lorsqu'on considère son environnement. D'abord, il était le fils d'Akaz, un lâche et un idolâtre. Ensuite, sa vie était comme un calme au milieu d'une tempête. Serré d'un côté par son père qui était l'hypocrite et infidèle, et de l'autre côté par l'intrigue et l'infidélité de son fils menacé qui, en étant roi, est allé même jusqu'à offrir ses propres enfants en sacrifice aux idoles. Immédiatement après son ascension au trône, Ézéchias a commencé sa restauration. Il n'avait que 25 ans. Déjà, c'est étonnant qu'à 25 ans, il a pu faire ce qu'il a fait. Mais cette piété pendant sa jeunesse atteste à trois choses, je crois. Que premièrement, sa foi était une foi indépendante et bien à lui. Elle ne dépendait pas, bien sûr, de son père. Son père n'était pas un exemple. Que deuxièmement, il a passé sa jeunesse en étudiant les Écritures, encore dans un environnement peu favorable à la spiritualité. Et que troisièmement, qui s'est discipliné moralement et spirituellement, mais pas seulement s'est-il discipliné lui-même, mais il est allé à discipliner ou à enseigner au peuple la discipline de soi, pour qu'il revienne à l'Éternel. C'est possible que sa restauration avait été motivée en partie par ce qu'il a témoigné au Nord. Il connaissait l'idolâtrie du royaume du Nord. Il avait témoigné la destruction et la captivité du peuple du Nord par les Assyriens. Étant déterminé d'éviter la même fin pour Juda, et aussi motivé par un respect profond pour Dieu, il a commencé sa restauration. Selon 2 Chroniques, chapitre 39, le verset 3, dans la première année de son règne, il a ouvert les portes du temple et les a fait réparer. Apparemment, la décadence sous Akaz avait été telle que le culte au temple avait cessé de se faire. Selon chapitre 29 de 2 Chroniques, au verset 4 à 11, Ézéchias a fait venir les sacrificateurs et les lévites pour servir, et c'est lui qui les a instruits, qui leur a expliqué leurs tâches. Il connaissait mieux la loi que ceux qui devaient eux-mêmes être ceux qui enseignent les autres. Selon les versets 20 et suivants du même chapitre, lui et les officiers de la ville ont offert des holocaustes à Dieu, la première fois depuis des années. Et puis selon les versets 35-36, la Bible dit, « Et ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. » Selon chapitre 30 de 2 Chroniques, Ézéchias a invité à tout Juda et tout Israël à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il est ainsi que sa restauration s'est répandue partout en Juda et même en certaines parties d'Israël du Nord, parmi ceux qui rester dans le pays. Et je crois que cela nous dit quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire, le bien arrive parfois quand nous essayons de réformer quelque chose nous-mêmes. Le succès final, pourtant, le bien absolu, ne vient que lorsque nous retournons à la source de tout ce qui est bien, c'est-à-dire à Dieu lui-même. C'est à ce point-là que commence la vraie restauration et pas seulement une réformation. La restauration commence avec un cœur juste, une attitude juste et une réponse juste. Ézéchias était tout cela et il a provoqué la même dans la vie de ses sujets. Dans 2 Chroniques chapitre 30, les versets 26 et 27, nous lisons « Il y eut une grande joie à Jérusalem. Depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel dans les cieux. » Comme je dis, selon le chapitre 31, l'amour d'Ézéchias pour Dieu lui a poussé à détruire toute forme d'idolâtrie. Versets 20 et 21 du chapitre 31. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il agit selon le bien, la droiture et la vérité devant l'Éternel, son Dieu. Dans toute l'œuvre qu'il avait entreprise pour le culte de la maison de Dieu, pour la loi et pour le commandement, en recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et il a eu du succès. Voilà un autre exemple dans cet homme. Il a agi de tout son cœur et il a eu du succès. Après avoir achevé la restauration et après avoir gardé sa confiance en Dieu, malgré les circonstances, malgré les menaces telles que celles de Sanchérib, Ézéchias est tombé malade. La Bible dit qu'il était sur le point de mourir. Dieu lui a envoyé le prophète Ésaïe, donc, lui dire de mettre sa maison en ordre. Et ensuite, la Bible nous raconte ceci, c'est au chapitre 20, de 2 Rois. 2 Rois 20, les versets 2 à 3. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant, « De grâce, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit de pleurs abondants. Quel résultat de cette prière, de la détresse de son cœur, Dieu lui a montré sa compassion, il lui a accordé la guérison et encore 15 ans de vie. Et comme signe que cela s'accomplirait, Dieu a dit à Ésaïe de lui dire que l'ombre reculera 10 degrés sur le cadran solaire. Bref, même vers la fin de sa vie, à cause de sa fidélité, à cause de son intégrité de cœur, le fait qu'il s'est donné à Dieu avec tout son cœur, Dieu lui avait accordé un miracle. Ézéchias est le seul roi, par David, dont le dernier jugement de sa vie était complètement favorable. Il y a Josias, mais ce n'est pas complètement favorable. Le secret du succès d'Ézéchias nous est révélé dans quelques versets que nous avons déjà vus. Bref, son secret était sa bonté, sa justice, sa fidélité et le fait qu'il cherchait Dieu avec tout son cœur. Et il se mettait avec tout son cœur dans son travail. Je dirais qu'il avait un zèle pour Dieu, fondé sur sa connaissance de Dieu. Il a d'abord appris à connaître Dieu. Ensuite, il servait Dieu de tout son cœur. Et comme résultat, Dieu a dit, parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'en eut point de semblable à lui. Ézéchias avait des fautes. La Bible ne les cache pas. Je ne les ai pas mentionnées. Il y en a. Vous pouvez les lire. Mais aussi la Bible nous révèle un homme qui connaissait Dieu Et c'est cela que je voulais faire ressortir ce matin. Et en lisant sa vie, l'histoire de sa vie, nous pouvons nous demander, connaissons-nous Dieu? Sommes-nous prêts à le servir de tout notre cœur, comme Ézéchias a fait? Parce que cet homme connaissant et en le servant que Dieu prendra plaisir en nous, comme il a pris plaisir dans la vie d'Ézéchias. Amen.